Chapitre 27. Comme chaque mois, nous voici en réunion de Strategic Management, Prospective Analysis and Opportunities. Une expression aussi pompeuse que creuse pour un banal point de direction. Dans notre pays, dès que l'on veut donner un peu d'allure à ce qui en manque, on lui colle un nom anglais. Ça reste foireux, mais ça sonne mieux. Max et moi présidons en bout de table, côte à côte, mais pas ensemble. Il se rend bien compte que je ne suis pas décidé à jouer la complicité. Il tente d'établir le contact en abordant des points dont je sais pertinemment qu'il n'en a rien à faire. Peu enclin à lui faciliter la manœuvre, je me contente de répondre laconiquement en regardant ostensiblement ailleurs. Les petits jeunes de l'équipe commerciale arrivent les uns après les autres. L'utilité des services commerciaux est évidente, mais ils ont pris une telle importance dans notre agence que j'ai surtout l'impression que Max s'est créé sa cour avec ses petits soldats et ses favorites. La plupart sortent à peine de l'école. Chaque composante de leur comportement est codifiée à l'extrême. Lorsqu'ils sont en public, le moindre de leurs gestes, de leurs propos et de leurs attitudes est mis en scène en fonction du regard de ceux qui les observent. La première à s'être installée était là avant nous parce qu'elle veut montrer à quel point elle est sérieuse. Ses documents sont impeccables et ses stylos parfaitement alignés sur le côté. Elle changera de tactique lorsqu'elle aura compris que ses camarades la méprisent pour ce zèle. Les suivants singent une attitude de salarié débordé qui a miraculeusement réussi à se libérer pour cette réunion parce qu'il est trop important de partager nos visions. Et puis il y a les alphas, ceux qui arrivent en retard, sans même s'excuser, les yeux rivés sur leur téléphone parce qu'on n'imagine même pas tout ce qu'ils gèrent d'essentiel. S'instaure ainsi entre eux une hiérarchie non dite, faite d'un subtil mélange du dédain qu'ils pensent pouvoir infliger et de leur désir de ressembler à ceux qui les fascinent. Celui qui ne fait plus preuve que de mépris prend place au sommet de leur pyramide. Je m'attarde sur leurs déguisements et leurs accessoires, comme Barbie et Ken, leur portable, qu'ils ne lâchent jamais, leur tablette et surtout le gobelet de café choisi avec soin parmi les différents crus du monde, même s'ils sont infoutus de faire la différence. Sans ce précieux breuvage, fabuleux aboutissement addictif d'un matraquage permanent d'images de marque, jamais ils n'arriveraient à tenir le rythme de leur vie trépidante. Je les trouve amusants, avec leurs vêtements taillés trop près du corps. S'ils doivent courir ou même lever les mains en l'air en cas de braquage, c'est sûr ça va craquer aux entournures. Cette noble assemblée ne convie aucun de nos concepteurs ou développeurs. Les opérationnels n'ont rien à faire ici. Ils ne seraient pas à leur place. Là, entre winners, ils vont célébrer leur performance à coups de courbes projetées, d'interminables PowerPoint remplis de vide qui se terminent immanquablement par une pensée aussi profonde qu'originale du genre « Le dépassement est à l'équipe, ce que l'envol est aux oiseaux qui s'élèvent vers le soleil. Merci les pigeons. » Pourquoi ne pas inviter des ingénieurs à cette présentation ? Max me regarde comme si j'avais insulté sa mère. Vous avez déjà vos réunions techniques entre vous, pas vrai? On n'y vient pas. Les deux camps sont clairement délimités. Exact, mais c'est vous qui décidez de ne pas y assister, parce que vous n'y comprenez rien. Il ne relève pas. Le tour de table commence. Comme d'habitude, on ne s'arrête même pas sur moi, parce que le commercial n'étant pas mon domaine, je ne comprends rien à leur art. Toujours les mêmes mots ronflants, les expressions à la mode propagées par les réseaux, les anglicismes pathétiques, les acronymes stupides. C'est d'un ennui. Ce n'est pas une réunion, c'est une expérience de mort imminente. Si au moins il y avait une lumière autour de cette table, je serais heureux de lui rentrer dedans. J'aime particulièrement le petit jeune avec son costume neuf qui sourit et fait de grands gestes en parlant de nos progressions de marge en Asie. Même si je les confonds tous un peu, j'ai l'impression que celui-ci n'était pas là la dernière fois. L'usine qui fabrique ces individus a dû en livrer un nouveau. Je me sentais mieux à installer mes noix de cajou sur le marché. Au moins ça avait un sens. Max se penche vers moi et me glisse. Quand on aura fini, il faudra que tu m'accordes une minute pour régler un détail. Même lui ne fait pas attention à ce que ces petits soldats racontent. Un détail, pas trop long parce qu'il faut que je file vite. Juste la mise aux normes des contrats. J'ai tout fait préparer, tu n'as plus qu'à signer.
Quel contrat ?
Les nôtres ? La réglementation change sans arrêt. Je lirai, je verrai. Il semble gêné et insiste. Il faudrait régulariser rapidement. Ni lui ni moi n'écoutons plus ce qui se dit autour de la table. Tu les as avec toi ?
Bien sûr.
Il les extrait d'un parapheur et les dépose sous mes yeux. Je feuillette les pages. Ce n'est ni plus ni moins que mon contrat d'actionnaire et de président.
Un détail, donc.
Je ne vais pas signer cela sur un coin de table. Je dois le faire relire par mes conseillers juridiques.
Tu ne me fais pas confiance ?
Ne me la joue pas à l'affectif. Il est normal que je relise, c'est tout. De moins en moins à l'aise, Max précise. Tu verras, j'ai fait ajouter une clause sur ta participation aux présentations afin de garantir ta rémunération. Page 14, paragraphe 6b. Je jette un œil. Ce gros malin me promet une prime de présence lors des réunions avec les clients, mais assortie d'une obligation de m'y rendre. En clair, il m'astreint contractuellement à jouer mon rôle d'animal savant. Je le regarde droit dans les yeux. Ai-je l'air aussi con ?
Pourquoi dis-tu ça ?
Il est hors de question que je signe ça.
C'est ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Pourquoi t'opposer à l'intérêt général ?
On ne chuchote plus et les participants ont depuis longtemps arrêté de présenter leur pseudo-étude. Tous nous observent, perplexes devant la passe d'armes. Max monte le ton. Je ne sais pas ce que tu as en ce moment, mais tu te montres de plus en plus négatif, à la limite du contre-productif. Je me consacre à ce qui compte et je ne me laisse plus embarquer dans ta logique. Max prend son équipe à témoin. Je me retrouve seul.
Tout le monde a noté l'esprit de défiance dont tu fais preuve depuis quelque temps.
C'est-à-dire,
si tu ne joues pas le jeu de l'équipe, Adrien, je te promets que je n'hésiterai pas à faire ce qu'il faut pour protéger les intérêts de cette boîte et de ses collaborateurs.
Je le regarde sans colère, mais sans surprise non plus. Il n'a pas été long à dévoiler son jeu. Je me lève sereinement en demandant « Tu me menaces ?»«
Pas encore. »«
Qu'est-ce que tu vas faire ?»«
Le dresseur va faire piquer l'ours ?»«
Sérieux ?»« À force de jouer les petits chefs, tu t'es vraiment convaincu que tu étais le patron ?»«
C'est moi qui fais tourner la tôle. » Pendant que tu déprimes entre deux projets, c'est nous qui faisons bouillir la marmite.
Il englobe son équipe dans la charge. Mesure tes propos, Maxence. Je suis l'unique actionnaire majoritaire. Calmement, je déchire son nouveau contrat. Il bondit en éructant.
Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Ne compte pas te débarrasser de moi comme ça du jour au lendemain.
Ça, ce sont tes méthodes, pas les miennes.
Il s'énerve en aboyant. « Je n'hésiterai pas à te foutre mes avocats au cul. Il existe des lois. »
« Que les gens comme toi savent parfaitement utiliser, je sais.
Tu peux te retrouver condamné sans même t'en rendre compte. »
J'ai un léger rire nerveux. « Condamné sans même m'en rendre compte. » Je vois très bien ce que tu veux dire.
Dépêche-toi, camarade, parce que j'ai une autre affaire en cours qui risque de se plaider avant la tienne.
Que veux-tu dire ? Je quitte la salle en lui adressant un salut digne d'un pilote de chasse qui part en mission pour sauver le monde. Ce coup-ci, le geste est parfait.
Trop content.